Maintenant, le conseil étroit était réuni. Non pas dans la vaste chambre de justice qui pouvait contenir plus de 100 personnes et qu'on utilisait seulement pour les grands conseils, mais dans une petite pièce attenante où un feu brûlait. Autour d'une table longue, les membres de ce conseil restreint avaient pris place pour décider du sort des Templiers. Le roi siégeait au haut bout, le coude appuyé au bras de sa cathèdre et le menton dans sa main. À sa droite était assis Enguerrand de Marigny, coadjuteur et recteur du royaume, puis Guillaume de Nogaret, garde des Sceaux, Raoul de Presles, maître au Parlement de justice, et trois autres légistes, Guillaume Dubois, Michel de Bourdonnais et Nicole Loquetier. À sa gauche, son fils aîné, le roi de Navarre, qu'on avait enfin trouvé, Hugues de Bouville, le grand chambellan, et le secrétaire privé Maillard. Deux places resteraient vides. Celle du comte de Poitiers, qui était en Bourgogne, et celle du prince Charles, le dernier fils du roi, parti le matin pour la chasse et qui n'avait pu être joint. Il manquait encore Monseigneur de Valois, qu'on avait envoyé quérir à son hôtel et qui devait y comploter, comme à son habitude, avant chaque conseil. Le roi avait décidé qu'on commencerait sans lui. Enguerrand de Marigny parla le premier. Ce tout-puissant ministre, et tout-puissant de par son entente profonde avec le souverain, n'était pas né noble. C'était un bourgeois normand, qui s'appelait Le Portier, avant de devenir sire de Marigny. Il avait suivi une carrière prodigieuse qui lui valait autant de jalousie que de respect. Le titre de coadjuteur, créé pour lui, en avait fait l'alter ego du roi. Il avait 49 ans, une carrure solide, le menton large, la peau grumeleuse, et il vivait avec magnificence sur l'immense fortune qu'il s'était acquise. Il passait pour avoir la parole la plus habile du royaume et possédait une intelligence politique qui dominait de très haut son époque. Il ne lui fallut que quelques minutes pour fournir un tableau complet de la situation. Il venait d'ouïr plusieurs rapports, dont celui de son frère l'archevêque de Sens. Le grand maître et le précepteur de Normandie ont été remis, sire, entre vos mains par la commission de l'Église, dit-il. Il vous est désormais loisible de disposer d'eux totalement, sans en référer à personne, fût-ce au pape. N'est-ce pas ce que nous pouvions espérer de mieux ? Il s'interrompit. La porte venait de s'ouvrir sur Monseigneur de Valois, frère du roi et ex-empereur de Constantinople, qui faisait une entrée en coup de vent. Ayant seulement esquissé une inclinaison de tête en direction du souverain, et sans prendre la peine de s'informer de ce qui avait été dit dans son absence, le nouvel arrivant s'écria « Qu'entends-je, sire mon frère ? Mais sire le portier de Marigny, il avait bien insisté sur le portier, trouve que tout va pour le mieux ? Eh bien, mon frère, vos conseillers se contentent de peu. Je me demande quel jour ils trouveront que tout va mal. » De 2 ans le cadet de Philippe le Bel, mais paraissant l'aîné, et aussi agité que son frère était calme, Charles de Valois, le nez gras, les joues couperosées par la vie des camps et les excès de table, poussait devant lui une arrogante panse et s'habillait avec une somptuosité orientale qui, sur tout autre, eût paru ridicule. Il avait été beau. Né au plus près du trône de France, et ne se consolant pas de ne pas l'occuper, ce prince brouillon s'était employé à courir l'univers pour trouver un autre trône où s'asseoir. Il avait dans son adolescence reçu, mais sans pouvoir la garder, la couronne d'Aragon. Puis il avait tenté de reconstituer à son profit le royaume d'Arles. Puis il s'était porté candidat à l'Empire d'Allemagne, mais avait échoué assez piteusement à l'élection. Veuf d'une princesse d'Anjou-Sicile, il était par son remariage avec Catherine de Courtenay, héritière de l'Empire latin d'Orient, devenue empereur de Constantinople. Mais empereur titulaire seulement, car un véritable souverain, Andronique II Paléologue, régnait alors à Byzance. Or même ce sceptre illusoire, par suite d'un second veuvage, venait de lui échapper l'année précédente pour passer à l'un de ses gendres, le prince de Tarente. Ses meilleurs titres de gloire étaient sa campagne éclair de Guyenne en 1297 et sa campagne de Toscane en 1301, où, soutenant les Guelfes contre les Gibelins, il avait ravagé Florence et exilé le poète Dante. Ce pourquoi le pape Boniface VIII l'avait fait comte de Romagne.